Bonjour, l'interview du jour avec aujourd'hui Jean-Luc Petit-Renaud, épicurien de la télévision, critique gastronomique et je dirais plus simplement amateur de bonnes choses. Alors nous sommes à la veille de Noël et il nous a semblé tout indiqué, Jean-Luc Petit-Renaud, de vous avoir à l'antenne en cette journée. Nous allons parler bonne cuisine bien sûr, mais aussi de la qualité des chefs courchevelois. Jean-Luc Petit-Renaud, deux mots sur vous tout d'abord. J'ai envie de dire, il vaut mieux vous aimer car il est plutôt difficile de vous manquer tant vous êtes omniprésent sur les médias et dans la presse.
Ah, c'est gentil. Non, mais c'est vrai que je fais, comme vous, un peu de radio, que je fais
pas mal. Sur Europe 1. Hein,
sur Europe 1, voilà. Je suis donc là, je fais la chronique gastronomique, plus quelques activités à la télévision sur France 5, où j'ai une émission qui s'appelle Carte Postale Gourmande.
Ouais, juste avant, Arrêt sur Image.
Ouais. Voilà, exactement. Et puis qui est en même temps reprise par TV5. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que ça veut dire que quand on apporte ce que l'on met dans les petits plats bien français et qu'on le colporte au Venezuela, à l'autre bout du Vietnam ou du Japon, ben, c'est toujours un peu touchant. Parce que ça raconte bien notre pays.
Oui, donc ça veut surtout dire que de nombreux Français qui regardent TV5 de par le monde, ben justement, se raccrochent un peu à la gastronomie française au travers
oui.
de vous.
Oui, oui, c'est ça. Et puis en plus, ils sont très touchés de voir qu'il y a autant de différences d'un village à un autre pour préparer telle ou telle recette. Ça, c'est vrai. Et puis presse écrite aussi. Je suis journaliste à l'Express. Voilà.
Bien sûr.
Je vous ai tout raconté. Donc c'est vrai que c'est difficile de m'échapper.
N'est-ce pas, hein? Quand avez-vous trouvé cet équilibre entre votre goût pour la gastronomie et ce plaisir de le médiatiser?
Je pense que ça s'est fait. Mais vous savez, moi, je suis un comédien de naissance. J'ai écrit des pièces de théâtre. Donc, c'est en écrivant des nouvelles. D'ailleurs, pour la radio, c'était à l'époque, vous savez, des créations des fameuses locales de Radio France où il y avait besoin de programmes. Et bien, je racontais beaucoup d'histoires. Je racontais des histoires sur la radio suisse aussi, sur la radio belge. Et c'est un jour un directeur des programmes qui a trouvé que j'évoquais les choses, mes personnages dans mes fictions, passaient toujours par le zinc pour boire un coup de blanc et manger un morceau de saucisson ou s'installer carrément à table. Et c'est lui qui a eu cette idée de me dire, en gardant ce côté un peu de romantique, ce côté romancé, essayer de faire de la chronique gastronomique. Et c'est comme ça que je suis rentré, si vous voulez, dans le plaisir de raconter. Alors, en fait, c'est pas difficile pour moi, c'est un bon exercice de faire de la radio, de me mettre devant une caméra, parce que j'ai encore envie de jouer la symphonie des casseroles et des poêles, vous voyez ce que je veux dire.
Vous sentez franchement plutôt animateur, présentateur de gastronomie ou critique?
Oui, tout à l'heure, quand vous avez dit que j'étais critique, je préfère le titre de chroniqueur gastronomique. C'est-à-dire que je chronique, je raconte des histoires. Mais je raconte des histoires vraies. C'est-à-dire que mes acteurs sont les boulangers du pays, sont les charcutiers, sont les crémiers, sont les cuisiniers. Et donc, ce sont des acteurs amateurs. Et donc, ils connaissent bien leur métier. Et moi, j'essaie de rentrer par la petite porte, comme ça, dans leur vie et de voir toute leur sensibilité, ce qui se cache derrière le bout de leurs doigts pour arriver à faire tel ou tel plat, telle ou telle préparation dans leur laboratoire de charcutier ou de boulanger.
Peut-être que vous préférez parler de ce qui marche bien, de ce qui est bon, plutôt qu'aller dire que quelqu'un n'est pas très 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 bon dans sa cuisine.
Mais parce que si on se croise, cher ami, juste avant de passer à table, vous aurez plus envie d'avoir un conseil pour aller manger quelque part, plutôt que d'un conseil qui vous mettra de l'amertume dans la bouche. Donc moi je suis pour, oui, que l'on raconte ce qui va bien, d'autant plus qu'il y a pas mal de choses qui vont bien, mais toutes ces choses aussi en France sont extrêmement fragiles. Les appellations des fromages, par exemple, sont menacées certaines parce qu'on veut un peu uniformiser, on veut européaniser le goût du fromage. Et que si on n'est pas derrière des jeunes agriculteurs, de jeunes crémiers, de jeunes fromagers affineurs, pour les aider et leur montrer qu'on les aime, les mettre à l'écran, les mettre derrière un micro, eh bien ils risquent de se décourager et on risque de les perdre. Alors ça, ce serait quand même dommage au nom du patrimoine.
Oui, alors nous sommes à la veille de Noël. Ce soir, une grande partie des familles se réuniront pour un grand repas. Certains d'ailleurs, pour ici en tout cas, iront au restaurant où on met un peu les petits plats dans les grands cette journée. Et puis il y a ceux qui prépareront eux-mêmes. Alors pour vous, Noël doit plutôt inspirer un repas ou un plat traditionnel ou pas du tout au contraire?
Ah, moi je suis très classique. Noël, écoutez, le premier de l'an, on peut jouer avec les coquillages, les crustacés, même quand on est au sommet des cimes de Courchevel, peu importe, c'est-à-dire même si on a l'impression que c'est décalé. Le premier de l'an, on fait ce que l'on veut. Mais Noël, ça doit rester. Mais pour moi, c'est encore, c'est la belle nuit de Noël, etc. Donc ça, on doit sentir la peau qui croustille, la peau de la dinde qui croustille, ou de la poularde. J'aime bien ces mots poularde parce que ça se roule en bouche.
Ça fait beaucoup plus festin aussi, hein.
Oui, ça fait beaucoup plus festin. Et donc que l'on va mettre au four et que l'on va sans cesse ouvrir la porte du four pour remouiller cette peau qui est en train de dorer avec son propre jus. Ça, ce sont quand même des gestes qui annoncent l'arrivée du Père Noël. Et moi, je suis très traditionnaliste à ce moment-là parce que je ne veux pas qu'on m'enlève ce côté où on a besoin de retomber en enfance. C'est vraiment le jour où il faut le faire.
On peut mettre quelques huîtres quand même?
Alors, on peut mettre quelques huîtres si vous avez.
C'est
si
moins traditionnel, mais.
Oui, oui. Ah, mais moi, je serais plus. Et pourtant, je suis pas un grand consommateur, mais je vais être plus, par exemple, foie gras. Moi, mon repas classique, ce serait un peu de foie gras avec une belle gelée naturelle autour. Ce serait, par exemple, derrière, je ferais ce soir un joli boudin blanc poêlé. Je suis un vrai boudin blanc. Quelques pommes de rainette tout autour. Poêlé aussi au beurre blond. Derrière, il y aurait cette belle grosse volaille, quelques fromages et la bûche de Noël. Et pas la bûche de Noël avec le l'imagination débordante d'un pâtissier créatif.
Oui, la vraie bûche.
La vraie bûche, ouais. Avec la crème au beurre, celle qui descend directement sur la ceinture. C'est-à-dire que...
Qui fait beaucoup de bien, il faut le dire.
Qui fait beaucoup de bien pour mon ami et le diététicien, bien sûr. Non, mais ça, c'est remarquable. Voilà de quelle manière ça se passe. Et puis après, il y a les marrons glacés. Et puis ça doit sentir l'écorce d'orange qu'on a déposé sur les braises pour que ça sente bon dans la maison. Il y a des bougies partout. Il y a tout ça. Voilà mon contexte quand moi, je passe à table pour Noël. Voilà.
Bon, nous sommes le matin, mais bon appétit quand même si vous nous écoutez en cette belle matinée du 24 décembre. Parlons des cuisiniers de Courchevel. Rappelons-le, tout de même, la station est un site un peu unique avec deux étoiles Michelin, plusieurs qui ont des fourchettes et disons-le, un certain nombre qui pourraient prétendre à en avoir s'ils étaient ouverts à l'année, puisqu'on le sait, pour avoir des étoiles, il faut évidemment avoir une activité constante. On peut le dire, c'est véritablement un site unique pour une station de ski.
Mais oui, mais en plus, voilà quelque chose, une activité de pointe. Et bravo Courchevel, parce que vous savez, je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, on s'en foutait de la table. Il y avait le côté, on venait au sport d'hiver, il fallait vaguement se nourrir dans les auberges qu'on trouvait. Et c'est pour ça qu'on a eu, dans les années 70-80, pléthore de faux aubergistes, de faux pizzaiolos qui arrivaient, qui ouvraient, qui faisaient tout et n'importe quoi, parce que... On bouffait, on ne mangeait pas. Alors que maintenant, le même skieur, le même homme qui chausse ses raquettes le matin, ben, lorsqu'il passe à table, il a envie d'un moment privilégié. Et je crois que là, justement, une station comme Courchevel répond à ça. C'est-à-dire que vous avez ces gammes différentes.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne pizza et puis on peut avoir un très très bon plat aussi très raffiné.
Et on peut avoir une cuisine aussi extrêmement créative, une cuisine qui sort des sentiers battus. C'est vrai que c'est le cas, par exemple, du Chabichaud, c'est le cas du Bateau Ivre, qui sont des maisons comme ça très très pointues. Il y en a d'autres encore à Courchevel. Mais même, je trouve que la table de, entre guillemets, de la pension de famille élégante a drôlement évolué. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me fait plaisir.
Oui. Est-ce que vous qui... je sais, vous venez régulièrement sur Courchevel, on vous voit tous les ans, vous aimez un peu la neige quand même, il faut bien le dire. Vous allez de temps en temps dans des restaurants, et même si vous ne les connaissez pas tous, est-ce qu'il y a des valeurs montantes selon vous ici dans cette station ? Là, je vous demande d'être critique un peu.
Oui. Non, mais vous avez raison, parce que je prends le temps. J'aime la neige, vous l'avez dit, mais c'est plus la famille qui est sur les skis. Moi, pendant ce temps-là, je lis les cartes. J'adore ça. Je m'arrête sur le porte-menu et je lis les plats du jour. Ça, c'est un truc qui me réjouit. Mais par exemple, moi, j'aime beaucoup un jeune homme qui tient une maison avec son épouse. C'est la sœur en montant en 1850. Ça s'appelle le Genépi. Et c'est un garçon, Thierry Munier. J'aime beaucoup parce qu'il a ce côté encore complètement adolescent et ce côté, il a besoin de prouver les choses. Et alors, lui, il oscille entre deux cultures de table. C'est-à-dire qu'on va pouvoir manger la meilleure tartiflette du monde, on va pouvoir manger la meilleure fondue du monde, classique, belle, avec des charcuteries absolument phénoménales. Et puis après, il va s'amuser sur certains plats pour montrer aussi qu'il est allé à la belle école du fameux Claude Perrault, qui a aussi des origines à Courchevel, parce que je crois qu'il habite en bas de la station. Claude Perrault, qui était un 3 étoiles au guide Michelin à Paris, le Vivarois, c'était, qui est un monsieur à la retraite aujourd'hui, et ça a été un de ses disciples. Et un garçon comme lui, disciple de Claude Perrault, je peux vous assurer que ça se sent dans l'assiette, parce qu'il y a un immense respect des cuissons, il y a un immense choix dans le produit, et donc du coup voilà une vraie valeur montante, parce que la maison est délicieuse, il y a quelque chose de chaleureux, de très savoyard, on se sent bien, on se sent caressé dans le sens du poil, et côté cuisine, ça a ce côté et classique et ébouriffant aussi à un certain moment.
Ah, vous allez lui faire plaisir, d'autant qu'il a pris une fourchette de plus l'hiver dernier. D'ailleurs, plusieurs restaurants ici, comme par exemple la Solire ou la Fromagerie, ont aussi des fourchettes. Alors, dites-moi Jean-Luc Petit-Renaud, le 30 novembre dernier, vous étiez déjà sur Courchevel, avant même que la station ouvre, c'est d'ailleurs sans doute la première fois que vous veniez en dehors de la saison. Là, il y avait véritablement un rendez-vous gastronomique.
Il y avait un rendez-vous gastronomique. Oui, vous dites que c'était pas ouvert, vous avez raison, parce qu'on est presque arrivé avec le chasse-neige. Il y a eu la première neige qui était là, c'était sensationnel. Oui, parce que c'était les 40 ans de cette magnifique institution qui est le Chabichou. Et donc, il y avait une vraie fête et toute cette famille extraordinaire que j'aime beaucoup, la famille Rochdy, parce que il y a toutes les générations qui se côtoient et toutes les génération s'explique autour du piano, autour du fourneau. Et chacun laisse la place à l'autre pour qu'il y ait une forme d'expression culinaire tout à fait pointue. Et puis, il y a le renouveau de cette maison, parce qu'on a refait entièrement son décor, on a réaménagé un peu le site. Et que côté cuisine, c'est quand même une table qui m'enchante. Donc, on était venu justement pour chanter, pardonnez la répétition, mais pour chanter le nouveau, après le Beaujolais nouveau, où c'était justement une quinzaine de jours avant, eh bien on est venu chanter le chabichou nouveau.
Oui, précisons-le, il y avait d'ailleurs à peu près 130 personnes, parmi lesquelles beaucoup de vos confrères journalistes de la presse nationale. Mmh. Enfin, en tout cas, il avait mis les petits plats dans les grands.
Hein. Oui, et vous savez, c'est ça la performance, parce que ce jour-là, pouvoir nourrir dans une qualité, 130 ou 135 personnes, je ne me souviens plus, et que tout arrive chaud, cuit, parfaitement bien, eh bien croyez-moi que ça c'est une performance côté cuisine absolument extraordinaire, il faut toujours le ressouligner, nourrir 4 personnes, peut-être comme ce soir, parce qu'on va faire des repas un peu plus de famille, ou 10 personnes,
plus facile.
C'est plus facile que 135. Oui.
Jean-Luc Petit-Renaud, merci pour la mise en bouche, et en tout cas d'avance, joyeux Noël.
Eh bien, joyeux Noël aussi à vous et à tous vos auditeurs.